C'est 1 h 30 de retard, alors. Même plus, quoi, presque 2 heures. Les trains de nuit, vous savez, on a l'impression qu'aujourd'hui, on fait passer tous les autres devant, même la nuit. Nous allons donc essayer de continuer cette approche. On y arrive, hein, il faut bien comprendre, on y arrive. La dernière perspective moderne sur la personne, c'est sûrement la phénoménologie. Husserl joue un rôle important. C'est pas commode, du reste, de voir exactement le rôle d'Husserl. Parce que c'est, on voit très bien les réactions. On peut dire que Heidegger est husserlien au point de départ, et puis après il ne l'est plus. Merleau-Ponty est Heidegger au point de départ, et après il ne l'est plus. Alors est-ce que cette rupture par rapport à la phénoménologie qui a existé, et il y a la même rupture chez le Saint-Père, hein, faut bien le dire, hein, du moins chez le pape en tant que philosophe. Faut pas dire qu'il est phénoménologue, c'est faux. Alors, on emploie le terme, et l'équivoque, peut-être, c'est parce qu'il y a celle qui est tout à fait dans la phénoménologie, et qui met dans la phénoménologie tout ce qu'on veut, hein, qui est Teresa Tignesca, qui a été, ça fait ses études à Fribourg, qui, vous montrer l'exemple, hein, elle voulait faire un congrès phénoménologique à Fribourg, une session, alors c'est précipité sûrement, vous ferez une conférence. Non, je ne suis pas féminin. J'en connais. Pardon, vous êtes réaliste. Je dis, si vous voulez, alors ça va. Et au fond, c'est alors on met la féminologie à toutes les sauces, ce que je n'aime pas du tout. Parce que je crois que la féminologie est quelque chose de très particulier, qui est né à partir de Hegel, qui a été très formalisé par Husserl, qui a été très formalisé chez Merleau-Ponty, premier genre. Pour ceux qui veulent avoir un petit résumé très très simple de ce que c'est que la phénoménologie, c'est de regarder, parce que c'est passé par un cerveau français, merleau-pontien, et le cerveau de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty est relativement clair comparativement à des quantités d'autres. Eh bien, dans la préface sur la perception, phénoménologie de la perception, il y a un petit résumé que je trouve excellent. Merleau-Ponty est quand même quelqu'un qui pense assez juste, quelqu'un assez juste, comprenez bien, qui pense avec précision. Il y a là un résumé, une préface sur ce que représente la méthode phénoménologique que je trouve très bonne. Parce qu'elle est claire. Alors que d'habitude, on ne sait pas exactement où l'on en est. C'est le marécage. Où il y a des générations spontanées et on retrouve spontanément le point de vue ontologique au milieu de phénoménologie. Ça, c'est les générations spontanées des têtards. Vous voyez l'image, c'est comme ça qu'on va parler des générations spontanées. Dans le point de vue de la phénoménologie, c'est un petit peu ce qui existe. Tout d'un coup, on se retrouve dans l'ontologie, on se dit, mais comment ça se fait? Très difficile. Alors, ceux qui sont phénoménologue et qui arrive jusqu'au bout se pose toujours la question, comment rejoindre le réel? C'était la question de Descartes. Et au fond, c'est toujours la même question. Si vous partez de l'idée, comment l'idée rejoint-elle le point de vue de la réalité? Et au fond, c'est ça la grande question. Alors, vous voyez, quand on dit que de fait, de la phénoménologie, on rejoint l'ontologie, comment? C'est ça la question. Alors, il y en a qui sont plus ou moins conscients de ça. Husserl, et dans Husserl même, vous savez bien qu'il y a plusieurs étages. Hein, parce qu'on dit que le dernier Husserl n'était pas tout à fait le même que le premier. Je comprends, du reste. Mais certains n'acceptent pas du tout ça. En disant que Husserl est resté fidèle à sa pensée. Alors, c'est des questions très, très délicates. Hein. Spécialiste de la phénoménologie husserlienne, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis entré dans la phénoménologie husserlienne avec Murat, André Murat, quand il a fait sa thèse sur Husserl au Solfège. Il est resté un an, on a travaillé, ce temps-là je pouvais travailler avec mes étudiants, et on travaillait tous les jours, 1 ou 2 heures, sur les textes. Donc vraiment, j'ai travaillé avec lui, ça m'a beaucoup intéressé. C'était intéressant de rechercher ensemble ce que c'était. Et on voit comme c'est difficile, quand vous regardez le livre de Mural, c'est pas si commode que ça de comprendre bien ce que c'est. Ce que c'est qu'un film de juge aérienne et ce que ça représente. Alors, c'est simplement pour comprendre qu'il y a là un problème important pour nous. La filmologie husserlienne représente sûrement un tournant. Je crois que c'est le tournant de ceux qui veulent rejoindre le réel. Donc l'intention husserlienne est excellente et on est entièrement d'accord avec lui. Mais peut-être que la méthode même qu'il prend l'empêche de rejoindre le réel. Chez Merleau-Ponty, c'est très net. Hein. Parce que Merleau-Ponty identifie la philosophie et la méthode. Le premier Merleau-Ponty, hein, le Merleau-Ponty premier genre, identifie la philosophie et la méthode. Ça ne fait qu'un. La philosophie, c'est la méthode phénoménologique. Alors, cette méthode phénoménologique qui applique la réduction va être la philosophie. Comment va-t-elle rejoindre le réel? C'est la grande question. Et c'est pour ça que le second Merleau-Ponty, qui est une œuvre posthume, hein, du visible et l'invisible, dit qu'il faut rejoindre l'être sauvage, c'est-à-dire l'être non dompté par la phénoménologie. L'être sauvage, c'est ce que nous dirions, si vous voulez, que par le jugement d'existence, vous saisissez l'être sauvage. C'est pour ça qu'il bondit toujours. Dès que vous le touchez, la puce, immédiatement, déjà qu'il meurt. Vous voulez écraser une puce, hein, vous avez tous fait ce petit exercice. Si vous ne mouillez pas le doigt avant, vous êtes sûr qu'elle va échapper. Alors il faut mouiller son doigt avant, et alors la puce à ce moment-là est prise, et vous pouvez l'écraser. Autrement, vous ne pouvez pas l'écraser, c'est impossible. Elle bondira. Et au fond, c'est ça l'être sauvage. Hein. C'est l'être sauvage, il bondit tout le temps, vous n'arrivez pas à le saisir. C'est ce qui fait la difficulté pour les gens de comprendre ce que c'est que le jugement d'existence. Ils identifient l'être à la puce. Et ils oublient que, de fait, on peut toucher, y arrêter et écraser. On n'écrase pas l'être, mais on l'analyse. Alors, ce qui pourrait être la même chose. Alors, entrons un tout petit peu dans cette perspective, n'est-ce pas? Personne n'est le moi pur. Je reprends pour que nous puissions ensemble essayer de comprendre un tout petit peu cette position. Je crois qu'il y a une continuité, hein, de Descartes à Husserl. Évidemment, Descartes est autrement plus simple. Descartes, on peut tous le comprendre et s'apercevoir que Husserl, c'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup plus subtil. Mais je crois que c'est très important parce que les réactions de Heidegger et de Merleau-Ponty ne peuvent se comprendre qu'en fonction de Husserl. Comme beaucoup de positions d'Aristote ne peuvent se comprendre qu'en fonction de Platon. Il y a quelque chose d'analogue, vous voyez? Il y a une continuité, une certaine continuité de Hegel à Husserl. Il y a une certaine continuité. Ce serait intéressant à comprendre, ça. La continuité qui existe. Je crois qu'on retrouverait l'ontologie formelle chez Hegel et l'ontologie de l'ordre de l'exercice dans la phénoménologie husserlienne. Parce que je crois que ça reste une position de l'ontologisme. L'ontologisme, hein, on peut caractériser l'ontologisme, c'est le passage de l'idée à la réalité. C'est ce que Kant a très bien saisi, pour connaître. Kant a très bien saisi que l'erreur fondamentale de l'ontologisme, c'était de passer de l'idée à l'exister. C'est pas parce que vous pensez quelque chose que ça existe. Quand quelqu'un pense quelque chose et qu'il croit que ça existe, on dit qu'il est un petit peu malade de la tête. Ouais, vous vivez dans vos rêves, quoi. Vous croyez que vos rêves sont réels. Hein. Donc vous êtes somnambule. Beaucoup de gens sont somnambules. Ils quittent leur table de travail, ils croient que c'est la réalité. Ils sont somnambules. Et pour la phénoménologie, essaie de voir comment, de l'idée, je peux rejoindre le réel. Donc l'intention est très intéressante. Mais comme il y a la méthode qui est là, je crois qu'on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on voit ces réactions violentes. Saisir l'être sauvage. Et saisir l'être sauvage, ça ne se fait plus selon une méthode phénoménologique. Alors, pour comprendre ce que c'est que la méthode phénoménologique, puisque c'est une méthode réductive, je crois que c'est une méthode réductive à l'intérieur d'un ontologisme qui se formalise par la dialectique. Mais la dialectique husserlienne est tout à fait différente de la dialectique hegelienne. Mais il y a une dialectique de réduction, qui se fait par le mode de l'exercice, et non plus par le point de vue de l'idée. L'idée implique une détermination, l'exercice, c'est avant tout le point de vue de la vie. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil. La phénoménologie husserlienne est beaucoup plus subtile à saisir que ce que représente le point de vue de Hegel, qui est quelque chose de plus facile à saisir, l'idée. Donc, dans Idée 1, Husserl affirme, bien, je reprends, je vous ai déjà dit ça un petit peu, mais c'est pour que nous. Bien que la psychologie et les sciences de l'esprit soient atteintes par la mise hors circuit, il y a une phénoménologie de l'homme, de sa personnalité, de ses propriétés personnelles et de son concours de conscience et de son courant de conscience en tant qu'homme. Donc on peut dire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que tous ces courants philosophiques sont orientés vers la personne. Ça, je crois. C'est preuve de la philosophie contemporaine. Hein. Tout est ordonné vers le point de vue de la personne. Et il précise que la conscience se présente sous différents modes d'appréhension et sous différents rapports. Je vois à l'intérieur de la phénoménologie elle-même. La conscience, en effet, se présente comme une première fois en elle-même, comme conscience absolue, une seconde fois dans son corrélat en tant que conscience psychologique, laquelle est désormais insérée dans le monde naturel, elle est transmutée d'une certaine manière et pourtant n'est pas dépouillée de son propre statut en tant que conscience. Vous voyez bien, j'espère. Vous avez conscience de le cogito, je pense à quelqu'un, conscience de quelque chose. C'est la conscience dans son corps et là. Vous voyez la manière dont il le dit, c'est intéressant, parce que je crois que c'est ça qui nous permet de saisir les niveaux différents de la phénoménologie. La phénoménologie est très très sensible au niveau d'intelligibilité, au niveau de conscience. C'est pour ça que nous pouvons assumer tout ce qui est dit dans la phénoménologie en critique, où on doit être très sensible aux différents degrés des sciences. Je crois que la phénoménologie fait une confusion entre la critique et la philosophie, et la métaphysique, si vous voulez. Ça fait une confusion entre les deux. Mais nous pouvons récupérer tout ce que dit la phénoménologie au niveau critique, et même on devrait le faire. Parce que c'est une philosophie réflexive. La philosophie réflexive, pour nous, c'est la critique. Et c'est la logique. Vous voyez ? Alors, dans la phénoménologie, il y a une part logique et une part dite philosophique. Et cette part philosophique, en réalité, c'est la critique. Je crois que c'est ça qui doit être un peu notre point de vue. Alors, je relis ce passage, parce qu'il est de lui, donc directement. La conscience, en effet, se présente une première fois en elle-même comme conscience absolue. La conscience comme telle. Une seconde fois dans son corps et là, en tant que conscience psychologique. Je crois qu'on peut dire conscience de quelque chose. Laquelle est désormais insérée dans le monde naturel. J'ai conscience que je pense au chat, parce que c'est le chat auquel qui est tout le temps présent, les deux petites oreilles du chat. J'ai conscience que je pense au chat. J'ai conscience de penser à toi. Donc il y a un corrélat dans le monde naturel. Tandis que quand je suis dans la conscience pure, où est-ce que je suis dans la conscience pure? Comprenez, quand je suis dans la conscience pure, je suis dans moi. Tandis que dans la conscience 2, je suis dans le corps et là. Donc la conscience a un double aspect. Et ça, c'est tout le temps dans la phénoménologie husserlienne.
il y a le double rapport d'intentionnalité. Il y a le rapport d'intentionnalité subjective et le rapport d'intentionnalité objective. Donc vous avez l'aller-retour. Et ceci représente justement le point de vue de la théologie. Alors, il faut la mise entre parenthèses. Vous comprenez la fameuse mise entre parenthèses, hein? Du sérieux, c'est très difficile à comprendre. Hein? J'ai un étudiant à Fribourg qui était dominicain, qui était d'Australie, qui a fait une thèse énorme sur la théologie sérielle. Personne n'a rien compris à la théologie sérielle. Il était seul à comprendre. Il pas fait du tout. Il avait lu tous les écrits du Saint, absolument, il connaissait tout, absolument tout. Il dit, personne n'a compris. Il était très difficile. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est que la mise entre parenthèses? Parce que c'est ça qui est important, la mise entre parenthèses. Qu'est-ce que ça représente? La mise entre parenthèses du jugement d'existence. La mise entre parenthèses du retour vers la réalité, qui est la seule manière de pouvoir comprendre ce que représente la conscience pure, je crois. C'est pour cette conscience pure, oui, on réintroduit une abstraction à l'intérieur, mais une abstraction par rapport à l'objet. C'est un droit. Par rapport à la réalité. Et la réalité, c'est l'objet, puisque la conscience pure, regarde le moi. Et la conscience de, regarde l'objet. Et c'est pour ça que Husserl dit tout le temps que dans l'intentionnalité, il y a un double rapport, un rapport objectif et subjectif. Vous ne pouvez jamais parler d'une intentionnalité objective pure, ça n'existe pas. Nous disons, par exemple, quand nous essayons de comprendre ce que c'est que le concept, hein, dans le concept, nous disons que la détermination du concept vient de la réalité, dans l'appréhension. Et donc, il y a une intentionnalité d'un seul sens. Il n'y a pas d'intentionnalité dans l'autre sens. L'intentionnalité dans l'autre sens, c'est quoi? C'est justement que l'intelligence produit le concept. Mais l'intelligence produit le concept en ce sens qu'elle est parfaitement déterminée par le concept. Donc, il y a l'aspect de la vitalité, il y a la vie de l'intelligence. C'est l'exercice. L'exercice est du côté de la vie, mais l'aspect détermination de l'objet est du côté du réel. Et donc la spécification vient de l'objet, tandis que l'aspect exercice vient de la vie. Et nous distinguons les deux. Chez lui, plus de distinction entre le point de vue de l'exercice et le point de vue de l'objet. Alors, un essai de mise entre parenthèses pour trouver l'exercice à l'état pur. Comme si l'exercice à l'état pur pouvait exister. La pure conscience. Oui. La méditation transcendantale. C'est au fond de ça, arriver à une conscience pure. C'est curieux, c'est intéressant à saisir ça, parce que c'est quand même un effort de pensée, qui je crois est complètement à côté, vous savez bien. Et c'est un effort de pensée, on essaie de comprendre un petit peu ce que ça représente. Hein. On va essayer d'entrer dans ce que ça. Dans sa pensée, son corps est là en tant que conscience psychologique, laquelle est, oui, conscience psychologique, on voit très bien, la théologie est très anti-psychologique. Puisque tant que vous êtes au niveau psychologique, vous êtes lié au monde physique. Donc vous n'êtes pas dans l'aspect transcendantal. Vous voyez, Dieu reste conscient. Si vous essayez de comprendre Kant, hein, vous voyez bien quel jugement d'existence. Et puis, il y a les formes transcendantales. Les formes transcendantales sont coupées du jugement d'existence. Et les formes transcendantales, c'est le sujet dans sa subjectivité transcendantale. Ici, c'est plus la subjectivité transcendantale avec les formes a priori, mais c'est la subjectivité transcendantale dans la conscience pure, donc dans l'exercice. Je crois que c'est ça. Je vous dis ce que j'ai essayé de comprendre, hein, dans ce que ça représente comme effort de pensée. Donc, elle est transmutée d'une certaine façon et pourtant n'est pas dépouillée de son propre statut en tant que conscience. C'est une conscience psychologique. Votre conscience psychologique, elle est très simple. Vous écoutez un cours. Conscience psychologique. Vous voyez, en écoutant un cours, vous avez conscience d'écouter un cours.
Mais vous avez un corréla, le professeur qui parle. C'est un corréla. Et donc là, vous êtes replongé dans le monde naturel. Si vous essayez de couper de ce corréla et d'essayer de trouver la conscience pure, ne faites pas trop, parce que ça commence alors à décoller du réel. Et vous avez la conscience pure, vous avez la conscience pure de mon moi. Alors je découvre ce que c'est que ma personne. Alors c'est parallèle, je crois qu'on peut faire établir un parallèle avec Kant pour la subjectivité transcendantale. Mais la subjectivité transcendantale de Kant provient des formes a priori et des formes transcendantales, tandis qu'ici ça provient de la conscience pure. Et un parallèle qu'on peut établir. Au fond, c'est toujours la même chose. C'est qu'on considère que tout contact avec le monde physique est une aliénation. Je suis aliéné par le monde physique. Vous êtes aliéné quand vous m'écoutez. Alors j'aimerais mieux me taire pour vous désaliéner et que vous soyez dans votre conscience pure. Le monde physique nous aliène puisque c'est une détermination qui vient s'ajouter. Et ce n'est pas ma subjectivité transcendantale. C'est ce désir de purisme, de redécouvrir ce qu'il y a d'absolu en moi, indépendamment du monde physique. Derrière tout ça, vous voyez toujours un peu le platonisme qui existe. Hein. Toujours un tout petit peu. La forme, indépendamment du corps. Hein. Il y a toujours un peu ça. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les constantes de la pensée humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que où vous acceptez la sensation, vous ne l'acceptez pas. Où vous considérez que la sensation est quelque chose qui vous permet de progresser, ou au contraire, vous considérez que la sensation est une aliénation. Ça vous aliène, ça vous lie à l'autre. Ça vous lie au monde physique. Ça vous lie au monde sensible. Et alors à ce moment-là, vous en avez horreur. Et vous voulez découvrir dans une espèce de réflexion, un temps réflexif, ce que vous êtes à l'état pur. Je crois qu'il y a toujours, toujours la même tentation. Hein, parce que c'est ça qui est intéressant au point de vue philosophique, vous voyez, les détails. Tandis que ce qui est important, c'est de voir ceux qui sont pris par cette espèce d'intuition très profonde que l'esprit ne peut pas s'allier à la nature. Parce que si l'esprit s'allie à la nature, il s'aliène. La nature est source d'aliénation. Et c'est l'esprit qui doit se retrouver à l'état pur. Je crois que c'est ça qui est derrière toute cette perspective-là, depuis Platon, avec le néoplatonisme et tout le temps. Alors avec des mélanges différents. Mais enfin, vous retrouvez ça chez Kant, vous retrouvez ça chez Husserl. Et chez Husserl, c'est le point de vue dernier. C'est le point de vue, vous voyez, de l'exercice vital. C'est normal après Hegel, qui insiste énormément sur le point de vue de la vie. En effet, dans la perspective phénoménologique de Husserl, l'homme, c'est cité, l'homme pris comme être naturel et comme personne liée aux autres par un lien personnel, celui de la société, est mis hors circuit, net. L'homme de la société est mis hors circuit. L'homme de la communauté est mis hors circuit. Parce que c'est impur. La vie commune est impure. C'est ce point de vue-là. L'homme pris comme être naturel, comme personne liée aux autres par un lien personnel, celui de la société, est mis hors circuit. Ainsi que tout être animé. C'est bien ce conscient psychologique. Mais qu'en est-il du moi pur ? Le moi pur, c'est la conscience. La réduction phénoménologique fait-elle également du moi phénoménologique qui découvre les choses un néant transcendantal ? Ce qui est clair, c'est que le moi pur n'est pas un vécu parmi d'autres, que sa permanence n'est pas celle d'un vécu qui s'entête stupidement. Un petit noyau hein, qui demeure, ce moi pur. il semble être un élément nécessaire, une condition sine qua non. C'est tout à fait point de vue conscient. Et transporté du côté de l'exercice, du côté de la conscience. Qu'est-ce que c'est que les formes transcendantales? C'est une condition sine qua non. Vous ne pouvez pas comprendre sans les formes a priori. Les formes a priori sont là pour déterminer votre connaissance de tous les phénomènes. Donc, condition sine qua non. Oui, c'est ça qui est très difficile à comprendre. Hein, parce que ce n'est pas une causalité. Nous pensons tout de suite en termes de causalité. Alors, pourquoi ce n'est plus une causalité et ça devient comme une condition sine qua non, la réduction de la causalité à la condition sine qua non. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la philosophie kantienne. La causalité, nous recherchons les causes, lui recherche les conditions sine qua non. Pour que ceci existe, il faut des conditions. Alors vous voyez, c'est toute une conception de la connaissance qui n'est plus la connaissance philosophique à la manière d'Aristote, à la manière de saint Thomas, mais qui est une méta-science. Qu'est-ce qu'il faut pour que la connaissance puisse exister? Condition sine qua non pour que la connaissance puisse exister. Il faut nécessairement cela. Qu'est-ce qu'il faut pour que la conscience psychologique puisse exister? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il faut pour... Kant, c'était qu'est-ce qu'il faut pour que la connaissance scientifique puisse exister? La question de Husserl, qu'est-ce qu'il faut pour que la conscience psychologique puisse exister? Pour que la conscience psychologique puisse exister, il faut un moi pur, il faut une conscience pure. Vous voyez, c'est pas au même niveau, mais c'est exactement la même coupe, la même recherche. Vous voyez, alors c'est pour ça que c'est intéressant de l'entendre dire, la réduction phénoménologique fait-elle également du moi phénoménologique, qui découvre les choses, un néant transcendantal. Un néant transcendantal. On est dans l'ordre de la transcendantale. Ce qui est clair, c'est que le moi pur n'est pas un vécu parmi d'autres, que sa permanence n'est pas celle d'un vécu qui s'entête stupidement, il semble être un élément nécessaire. Condition sine qua non. L'identité absolue qu'il conserve à travers tous les changements réels et possibles des vécus ne permet pas de le considérer en aucun sens comme une partie ou un moment réel des vécus eux-mêmes. Ce n'est pas un autre étant, c'est d'un autre ordre. Ce n'est pas une conscience psychologique, une méta-conscience psychologique. Non, c'est d'un autre ordre. On passe d'un ordre à l'autre. On passe d'un ordre à l'autre. Cette conscience à l'état pur, cette conscience phénoménologique à l'état pur, qu'on saisit dans une réduction philosophique, c'est ça. Toute la réduction phénoménologique, c'est ça. C'est d'essayer de saisir cette conscience transcendantale. C'est comme ça qu'on aurait l'appeler pour bien montrer le lien avec Kant. Cette conscience transcendantale, cette conscience à l'état pur, elle ne fait pas partie de la série. Elle est en dehors, mais elle est présente dans la série, toujours présente. Autrement dit, en langage kantien, le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Exactement comme la forme transcendantale accompagne toutes mes expériences. Ainsi, la mise hors circuit du monde et de la subjectivité empirique, donc de la conscience psychologique, la mise hors circuit, la mise entre parenthèses, hein. La mise hors circuit, c'est la mise entre parenthèses. Je ne veux pas le considérer. Je barre, je trace, je fais ça. Ainsi, la mise hors circuit du monde et de la subjectivité empirique qui s'y rattache laisse pour résidu un moi pur, différent par principe avec chaque flux du vécu. Et donc, avec lui, se présente une transcendance originale, non constituée, une transcendance au sein de l'immanence. Transcendance que l'on n'aura pas le droit de mettre hors circuit à cause de son rôle essentiel, de son rôle nécessaire, toujours présent. Vous voyez, cette recherche, je vous dis, c'est très analogue avec Kant, mais c'est pas sur le même plan. C'est au plan de la conscience. C'est ce métapsychologique, ou c'est ce méta de la conscience psychologique, qui n'est pas dans le circuit, qui est hors circuit, et qui, au fond, nous dirions la source. Pour lui, c'est un élément nécessaire. Dans les méditations cartésiennes, la personne, entendue au sens le plus large du terme, est définie par Husserl à partir des habitus qui déterminent le moi. Je cite, le moi personnel lui-même, pôle des déterminations permanentes du moi. C'est toujours très difficile à préciser qu'est-ce que c'est qu'un pôle. Hein? Très difficile. Le moi permanent lui-même, pôle des déterminations permanentes du moi, n'est pas un état vécu, ni une continuité d'état vécu, bien qu'il se rapporte par de telles déterminations habituelles au courant des états vécus. Par la conscience psychologique, il est lié à tous les états vécus. Donc il est présent dans tous les états vécus. Mais il n'est pas un état vécu. Il est la condition sine qua non pour que l'état vécu puisse exister. La réduction, c'est ça. Ramener, découvrir cette condition sine qua non. Tout en se constituant soi-même comme substrat identique de ses propriétés permanentes. Tout en se constituant soi-même comme substrat identique de ses propriétés permanentes. Vous voyez la substance, le vieux reste de la substance, le substrat identique de ses propriétés permanentes. Le moi se constitue ultérieurement comme un moi personne permanente. Un moi personne permanente. C'est le moi pur qui est là, présent dans toutes les consciences. Au sens le plus large de ce terme, qui nous autorise à parler de personnalité inférieure à l'homme, et même si en général les convictions ne sont que relativement permanentes, le moi, au milieu de ces transformations, garde un style constant, un caractère personnel. Et comme c'est pas commode à saisir, hein? Je crois que c'est la seule façon de le saisir, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui permet la conscience psychologique. Comme il n'y a plus de recherche de cause, il y a la recherche de la condition sine qua non. Vous voyez, le dernier reliquat de la causalité, c'est la condition sine qua non. Et ceci, ça provient de Kant. Hein, ça provient de Kant, il faut bien le voir. C'est Kant qui a faussé complètement la perspective de la causalité en voyant ce qui est antérieur et postérieur. Vous voyez bien ce schéma-là. Postérieur, la conscience psychologique, antérieur, condition sine qua non. Pour que B puisse apparaître, il faut que A soit présent. Mais B n'est pas A, c'est bien évident. Mais pour que B puisse apparaître, il faut que A présent. C'est tout un raisonnement tout à fait différent de l'analyse philosophique qui recherche les causes. C'est d'essayer de saisir l'antérieur d'une façon absolue, l'antérieur absolu, le A absolu, par rapport au B relatif. La conscience psychologique est toujours relative, elle change. C'est évident, on n'a pas de fidélité dans nos opinions. C'est faux. On n'a pas d'opinion, ça dépend, ça change. Très bien. Mais il y a quelque chose où il y a la fidélité, c'est le A. Alors c'est ce A absolu présent dans les B relatifs. Et c'est cela qu'on cherche, et c'est cela qui est justement le moi pur, et qui est la personnalité. De ce moi, pôle identique et substrat des habitus, donc des déterminations particulières, Husserl distingue l'ego pris dans sa plénitude concrète, qu'il désigne du terme de Leibniz de monade, en adjoignant au moi pôle ce sans quoi il ne saurait exister concrètement. Il ne saurait notamment être un moi autrement que que dans le courant multiforme de sa vie intentionnelle et des objets visés par elle. Vous allez donc distinguer encore dans ce moi le pôle identique et le substrat. Donc, vous allez distinguer, Husserl distingue l'ego pris dans sa plénitude concrète, qu'il distingue du terme, donc qu'il désigne du terme de monade. Donc c'est cet ego pris dans sa plénitude concrète, dans ce qui est le lien avec tous les autres, et puis ce qu'il y a de plus profond. L'ego monade concret contient l'ensemble de la vie consciente, réelle et potentielle. Ce qui m'est spécifiquement propre à moi, ego, c'est mon être concret en qualité de monade. Puis la sphère formée par l'intentionnalité de mon être propre. On peut donc dire que pour Husserl, le moi personne permanente n'est pas un état vécu, mais demeure au milieu du courant multiforme de la vie intentionnelle et implique comme fondement le moi monade, l'ego monadique existant concrètement. Oui, comme c'est là où je retrouverai d'une certaine manière une ontologie existant concrètement. Mais en fond, ce n'est qu'une condition sine qua non. Si vous recherchez bien, vous restez dans l'intentionnalité, vous cherchez le fondement de l'intentionnalité. Et c'est le fondement de l'intentionnalité que vous recherchez. Ce sans quoi, toutes les intentionnalités conscientes ne pourraient pas exister. Alors vous voyez cette chose très subtile, hein, de pouvoir remonter successivement, ce n'est pas commode du tout. Et alors vous êtes obligé, quand vous arrivez à cette conscience pure, de distinguer cette conscience pure en tant qu'elle est présente, et à cette conscience pure en tant qu'elle est au-delà, en tant qu'elle est monade, en tant qu'elle est absolument indivisible. Monade veut dire indivisible. Donc j'aboutis à un principe, j'aboutis à quelque chose qui, dans l'ordre de la réalité, existe, il faut bien. Et c'est cette conscience pure et c'est ça la personne. Donc vous définissez la personne par la conscience pure, surtout pas la conscience psychologique, hein. L'au-delà de la conscience psychologique. Quelque chose qui est la condition sine qua non de la conscience psychologique. Et qui est à la racine de tout, et qui est l'ego monadique existant concrètement. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais je crois que c'est la subjectivité transcendantale vue du côté de la conscience. Pour moi, ça me semble très proche, comme coupe de raisonnement. Vous voyez ? Alors, c'est dit d'une façon très différente, parce que c'est dit dans cette méthode de réduction phénoménologique très particulière, pour essayer de découvrir ce noyau au-delà duquel je ne peux pas remonter. Je ne peux pas aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est un ego monodique, absolument indivisible. Alors, voyons maintenant, tout de suite, hein, Max Scheler. Le Saint-Père est plus impressionné par Max Scheler que par Husserl. Il ne faut pas l'oublier. C'est beaucoup plus auprès de Max Scheler qu'on doit découvrir. Husserl, au fond, veut renouveler toute la philosophie. Il y a chez Husserl une intention philosophique très très forte. Il y a chez lui un tempérament philosophique. Il veut tout renouveler. C'est ça l'intérêt du Husserl. C'est quand même une pensée philosophique qui a quelque chose d'assez génial en mettant en lumière l'intentionnalité et en reprenant le problème de l'intentionnalité. C'est là l'intérêt, si vous voulez. Ce qui fait comprendre, vous voyez, chez André de Muralt, l'intérêt qu'il a de l'intentionnalité, parce qu'il a commencer par Husserl. Et c'est d'essayer de remonter l'intentionnalité jusqu'au bout, essayer de saisir les modalités différentes de l'intentionnalité. Et ça, ça fait comprendre cette recherche. Alors, c'est intéressant au point de vue critique, parce que je crois que c'est proprement critique. Dès que vous regardez l'intentionnalité pour elle-même, vous êtes un point de vue critique. La critique, c'est regarder l'intentionnalité pour elle-même. Mais si vous êtes, alors Si vous allez jusqu'au bout, vous direz jamais par la critique, je ne rejoins le point de vue métaphysique. Jamais. Je peux creuser le plus possible, j'aboutirai à quelque chose qui soit la conscience pure. La conscience pure, c'est quoi? Est-ce que la conscience pure peut-elle se séparer du concept? Toute la question est là, au point de vue critique. Posez-vous la question de cette manière-là, parce que là, nous sommes dans quelque chose qui... Mais pour nous, la conscience pure, c'est l'appréhension, à la différence du jugement. Le jugement n'est jamais tout à fait pur, parce qu'il n'a fait qu'une composition. Donc il n'est jamais tout à fait pur. Tout jugement a fait qu'une composition. Tandis que l'appréhension nous donne quelque chose de tout à fait pur. C'est l'assimilation des culs. Donc, et c'est un méta-conscience, hein, vous voyez bien. Puisque je dis que la conscience est parfaitement consciente que dans le jugement. Il y a quelque chose d'antérieur au jugement qui est l'appréhension. Ce quelque chose d'antérieur au jugement qui est l'appréhension est toujours lié au concept. Donc toujours lié à la cuidité. Je dirais que l'appréhension a des niveaux différents, les trois niveaux de l'appréhension. Le tout, global, confus, l'acuité et la ratio actus. Alors, la ratio actus, c'est l'air. La ratio actus, c'est la conscience pure, transcendantale. Vous voyez, si je veux saisir, hein, parce que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il y a quand même, ces gens-là ne sont pas des imbéciles, donc ils recherchent quelque chose. Hein, ils recherchent quelque chose. Et il faut que nous puissions, nous, avec notre réflexion, comprendre comment dans notre réflexion nous touchons quelque chose de semblable. Quelle est la conscience pure pour nous, au point de vue philosophique? Où est-ce que je dirais la conscience pure? Je dirais que la conscience pure, au niveau critique, c'est l'appréhension de l'être. Alors, l'appréhension de l'être est au-delà de toute conscience psychologique. Elle est transcendantale. Et le mot transcendantal pour deux valeurs tout à fait différentes. Mais c'est quand même tous les deux transcendantales. C'est la conscience que j'ai du concept de l'être. La conscience que j'ai des transcendantaux. C'est ça l'appréhension de l'état pur. C'est la conscience des transcendantaux. La ratio actus. La conscience que j'ai, qui est une méta-conscience, parce que je n'ai pas la conscience de ça. Je la redécouvre à travers la conscience proprement psychologique, dans le terme husserlien, du jugement. Il y a quelque chose d'antérieur, c'est l'appréhension. Et l'appréhension est à l'état pur dans l'appréhension des rationnels, transcendantales. Donc c'est bien, si je veux mettre l'analogue, c'est bien cette conscience de l'être qui est l'analogue dans la philosophie réaliste de ce que la psychologie appelle cette conscience pure et transcendantale. C'est quand même très curieux. Là, on touche quelque chose de réel, vous voyez. Mais alors, la différence, c'est que pour eux, le concept est lié à la conscience psychologique. Le concept est lié au jugement. Pas de concept de l'appréhension. Parce qu'il n'y a pas de concept de l'appréhension, je suis donc en face d'une conscience à l'état pur. Il n'y a plus d'objet. Il ne peut plus y avoir d'objet. Donc, il faut que ce soit le sujet. Quand il n'y a plus d'objet, que vous êtes le sujet, on sait très bien. Quand vous contemplez quelque chose de réel, vous contemplez, et vous êtes en extase. Mais dès que l'objet disparaît, vous êtes en impasse. Et là, vous êtes tout replié sur vous-même. Et c'est vous qui devenez l'objet de votre contemplation. Je préfère le partage des autres. Le moment où l'extase se transforme en intase. Hein. Et alors c'est le moi, dans toute sa splendeur, qui devient ce que pratiquement on contemple. La différence entre la contemplation du petit chat auprès du feu et de l'aigle, hein, c'est ça. Il y a quelque chose là que nous devons essayer de saisir. Et nous devons le saisir fondamentalement d'un point de vue critique. Et d'un point de vue critique, nous touchons par l'appréhension. L'appréhension ultime et dernière, c'est l'appréhension de la ratio actus. Vous voyez, je dis bien la ratio actus, ou l'être. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Alors, je crois que toutes ces philosophies
ayant perdu ce que représente l'appréhension distincte du jugement, on a ramené l'appréhension du jugement, et là, elle s'efforce de retrouver quelque chose d'antérieur au jugement. Le jugement nous lie au monde physique, mettons-le entre parenthèses. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Une conscience à l'état pur. On aura la conscience du moi monadique. Et la conscience du moi monadique, c'est la subjectivité transcendante. C'est en ce sens-là que toutes ces philosophies ne dépassent pas Kant. Je crois que toutes ces philosophies ne dépassent pas Kant. Elles restent en dépendance de Kant. Et on retrouve fondamentalement l'intuition de Kant présente dans toutes ces philosophies. Et c'est ça qui est intéressant, au point de vue histoire de la pensée. C'est de voir comment Kant représente vraiment un grand. Et avant Kant, Descartes. C'est le primat de l'idée, mais comprenons bien, ce n'est plus le primat de l'idée ici, c'est la subjectivité transcendantale. Et la subjectivité transcendantale de Kant n'est pas la même subjectivité transcendantale que Husserl. Mais c'est toujours cette subjectivité transcendantale. C'est toujours ce retour au moi pensant, au cogito. Toujours ce retour à quelque chose de premier qui transcende ce que je peux constater immédiatement.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.